Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
C'est la première fois depuis 13 ans que des pays occidentaux renouent des relations diplomatiques avec Damas. Le ministre français des Affaires étrangères et son homologue allemande ont rencontré vendredi le nouvel homme fort de la Syrie. Ancien combattant d'Al-Qaïda, Abou Mohammad al-Joulani a troqué le treillis pour un costume cravate et se fait désormais appeler Ahmad al-Shara. Un signe d'ouverture et de modération, certains en doutent, car en accueillant ses invités, le tombeur de Bachar al-Assad a refusé de serrer la main de la ministre allemande, se contentant de la saluer. Jean-Noël Barrot tente depuis d'éteindre la polémique.
Est-ce que j'aurais préféré qu'il serre la main d'Annalena Baerbock ? Évidemment que oui. Mais ce qui aurait été beaucoup plus problématique, si je puis dire, c'est que dans nos échanges, il ne fasse aucun cas de nos attentes très fermes et très claires sur la condition des femmes, ce qui n'a pas été le cas.
Le leader du groupe islamiste HTC a promis de respecter toutes les minorités et les femmes. Mais la révision des programmes scolaires et la nomination d'un nouveau gouvernement inquiètent. Le ministre de la Justice était il y a quelques années un juge islamique qui appliquait la charia. Sur ces images, en 2015, dans la région d'Idlib, il ordonne l'exécution d'une femme. La France assure qu'elle jugera le nouveau pouvoir syrien sur ses actes, pas de chèque en blanc.
Nous devons regarder sans naïveté le changement de régime en Syrie. Restons fidèles aussi à notre engagement, jamais démenti depuis 2011, pour une Syrie souveraine, libre, et respectueuse de sa pluralité ethnique, politique et confessionnelle.
Alors sur quelle base les islamistes qui ont libéré la Syrie de la barbarie de Bachar al-Assad vont-ils reconstruire le pays ? Les Occidentaux peuvent-ils faire confiance au nouveau maître de Damas ?
Nos trois experts pour ce débat, Myriam Barad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier essai mécanique des conflits, cycles de violence et résolution, est paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Vous avez de sérieux doutes sur le nouveau pouvoir syrien, vu le passé des nouveaux gouvernants qui ont commis des exactions sur des civils. À l'heure actuelle, il n'y a pas de garantie, selon vous, pour les droits des femmes notamment, ou les droits des minorités religieuses et ethniques. À côté de vous, Pierre Aski, journaliste et chroniqueur géopolitique, France Inter le matin 8h17 et au Nouvel Obs. Votre dernier essai, Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit, aux éditions Stock. Selon vous, Pierre Aski, il ne faut pas avoir une vision occidentalo-centrée du problème. Il faut tenter d'être positif vis-à-vis du nouveau régime syrien, car l'Europe a intérêt à ce qu'il réussisse malgré ses défauts. Et enfin, Maya Kadra, bonsoir madame, enseignante, bonsoir. Journaliste franco-libanaise. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient à la revue Politique et Parlementaire. Selon vous, on va vite voir si l'ambition politique d'Ahmed al-Shara, c'est le nom de celui qui se faisait encore appeler il y a un mois al-Joulani, l'emporte sur son idéologie. S'il veut rester dans le paysage politique en Syrie, il sera, selon vous, obligé d'adoucir son discours, car tous les regards sont rivés sur lui. Et on démarre avec la déclaration du jour.
Elle est signée du prix Goncourt 2024, Kamel Daoud, à propos donc du refus du nouveau leader syrien Ahmed al-Shara de serrer la main de la ministre allemande des Affaires étrangères. En l'acceptant sans broncher, l'Occident révèle son éternel aveuglement vis-à-vis de l'islamisme, dénonce dans Le Point l'écrivain franco-algérien dont on connaît le combat pour la laïcité et contre l'obscurantisme religieux. Myriam Benrad, vous partagez cette diatribe, cette critique violente de Daoud sur notre présumée naïveté ?
Oui, parce que là, j'ai par exemple lu des commentaires qui tendaient à dire que c'était finalement très culturel, hein, que c'était la manière de saluer culturelle d'un certain nombre de dirigeants du monde arabe. Mais enfin, le monde arabe est moderne. Aujourd'hui, ce monde, même monde arabe, musulman, est modernisé. Donc, une poignée de main. Et puis surtout, ça vient dans le contexte de ces fameuses vidéos d'exécution de femmes accusées de corruption, de prostitution et de la nomination.
Ces vidéos, c'est elles dans ont été le cas du ministre de la Justice qui a été nommé par
Al-Shara. De la Justice. Voilà. Et ils ont quand même déclaré, en réaction à la controverse qui est déjà lancée, que c'était une étape passée.
Alors, parce qu'elle date de 2015.
Que c'était une certaine relation, tout de même, un certain rapport au droit international.
On va y revenir, mais sur ce symbole de cette poignée de main refusée à une femme, dont le visage aurait été d'ailleurs flouté sur les chaînes de télévision syriennes, Pierre Aski.
Alors,
est-ce qu'on en fait trop ?
Jean-Noël Barrot, ce matin, disait que Annalena Baerbock savait qu'elle ne serrerait pas la main du leader syrien en arrivant. Donc, on est dans une, moi je trouve, une indignation qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Si on se place du point de vue de la population syrienne, elle sort de l'enfer. La chute de Bachar el-Assad, c'est un mois, jour pour jour, aujourd'hui. On a vu les images de la prison de Sednaya. C'était un des régimes les plus sanglants, sanguinaires de la planète, de l'après-guerre, quand même, hein, en termes
père
de...
Père et fils.
De, voilà. C'est ça, et aujourd'hui, qu'on soit en train de polémiquer là-dessus, alors que le pays est dans un état absolument catastrophique et qu'il y a tout à faire... Il ne s'agit pas d'être aveugle et de penser que M. Al-Sharré est un social-démocrate scandinave, ce n'est pas la question. Mais la question, c'est celle à la fois de la population syrienne et de la région, qui est quand même assez explosive encore aujourd'hui.
Et alors, vous avez évoqué Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, elle-même a relativisé ce refus de la saluer d'une poignée de main. Écoutez.
Schon als sie angereist war, war mir jedenfalls klar, dass es hier offensichtlich nicht gewöhnliche Handschläge geben wird. This requires a political dialogue involving all ethnic and religious groups, involving men and equally women. They all must be involved in the constitutional process and in a future Syrian government.
Maya Kadra, c'est ce qu'on appelle de la réelle politique ou du renoncement ?
C'est du pragmatisme, en fait. C'est du pragmatisme, comme M. Askey a dit. Il faut relativiser simplement parce qu'il y a aujourd'hui une urgence, c'est celle de l'avenir de la Syrie et du peuple syrien qui vient juste de sortir d'un demi-siècle de dictature. Et ce n'était pas la dictature plus tendre, c'était la dictature la plus sanguinaire au Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, soit on choisit de grossir ce qui s'est passé, c'est-à-dire la poignée de main refusée, soit on considère que c'est un épiphénomène, que c'est culturel, même si c'est gênant et ça nous froisse, nous, dans notre culture occidentale. Mais il faut avancer parce qu'aujourd'hui, je rappelle qu'il y a toujours des coupures d'électricité, des coupures d'eau en Syrie et que c'est un peuple qui est à... Non seulement la pierre est à reconstruire, c'est les âmes qui sont à reconstruire après ces 50 ans de dictature dévastatrice.
Oui, mais Myriam Benrad, vous dites que c'est symptomatique quand même d'une Syrie qui s'oriente vers un diktat islamiste, voire djihadiste. Dépassons cette poignée de main-là, mais est-ce que ça signifie quelque chose de l'orientation qui est en train de prendre ce régime pour l'avenir?
Oui, parce qu'en fait, là, c'est vrai qu'on est très braqué sur la poignée de main qu'on peut qualifier d'épiphénomène, mais enfin, derrière, il y a eu quand même une détérioration de la situation des femmes continue. D'ailleurs, tout de même, la guerre civile, toute guerre civile est complexe. Hein. On a eu des crimes de guerre commis de tous les côtés, et on le voit aujourd'hui, les djihadistes, bien sûr, se sont rendus coupables d'exactions, d'atrocités terribles. Donc je veux bien qu'on soit dans un contexte de libération, etc., mais je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à cette même libération. J'ai une très longue expérience sur l'Irak en matière de libération. Je peux vous parler de la transition irakienne, qui a été une catastrophe dans d'autres circonstances. Mais j'attends de voir, moi, des moments forts. Aujourd'hui, on nous parle d'élections dans 4 ans. Mmh. On nous parle d'une constitution.
Dans 3
ans. Oui. Alors, la constitution est en fait, j'espère qu'on y reviendra, ce qui va vraiment fixer de manière claire, définitive et incontestable ces fameux droits des femmes, des minorités, ce qui va pour donner, je dirais, une ligne directrice. Mmh. Aujourd'hui, on a des déclarations qui s'accumulent. Et je vais peut-être rajouter un point quand même. Oui, on reçoit des Occidentaux, des ministres, des diplomates, mais ne soyons pas naïfs. C'est pour rendre finalement aussi, donner une image qui permette de négocier derrière avec les grands bailleurs de fonds des investissements et la reconstruction de la Syrie. Mais aujourd'hui, pour moi, le peuple syrien n'a aucune garantie quant à ce que ce régime va être, en l'absence, encore une fois, d'une constitution, d'un processus politique.
Justement, sur cette constitution, Pierre, c'est vrai qu'on s'étonne de ce processus de 3 ans tout de même. Ce n'est pas rien, ça nous paraît long vu d'ici. Et pour vous ?
Écoutez, franchement, on peut comparer avec plein d'autres transitions. C'est certainement long. La question, c'est le processus. Jean-Noël Barrot, encore lui, ce matin, puisqu'il en revient, disait ce matin que les autorités lui avaient donné l'assurance qu'il y aurait des femmes dans le comité constitutionnel qui préparerait cette nouvelle constitution. Ils ont nommé une femme gouverneur de la Banque centrale. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire attention aux lunettes qu'on utilise. On fait souvent, et ça a été fait les premiers jours, le parallèle avec l'Afghanistan.
L'Afghanistan et les talibans.
Les talibans ont complètement effacé les femmes de la vie sociale.
On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Oui, on y reviendra, y compris avec une archive.
On est loin du compte en Syrie. Il y a une société civile qui est en train de se réorganiser parce qu'elle était niée pendant toutes ces années. Je vais employer une mauvaise expression, la messe n'est pas dite.
Certes.
Et pour vous, Maya Kadra, mais c'est vrai qu'en même temps, les révélations sur le ministre de la Justice, on en parlait, hein, qu'on a vu dans d'anciennes vidéos superviser la mise à mort de femmes accusées de prostitution, bah, est-ce qu'elles ne montrent pas les limites des gages d'ouverture et de modération de ce nouveau pouvoir?
D'après le ministre de la Justice syrien, il dit que c'était une autre époque. Mais pour moi, il y a une continuité quand même, surtout en politique, surtout quand on fait une évolution, entre guillemets, et je le dis avec précaution, entre djihadisme et responsabilité politique. Ça, c'est des images qui ont été vérifiées, doublement vérifiées. La voix, aussi bien que le visage. Et donc, un tel ministre de la Justice qui n'est pas à la première polémique, en fait. On lui a attribué aussi des déclarations disant que les femmes ne peuvent pas être à des ministères régaliens comme le ministère de la Défense, comme dans l'armée, etc., etc. Donc, c'est un boulet pour moi, pour ce nouveau régime ou pour ce gouvernement transitoire aujourd'hui.
Alors, autre boulet ou autre cas concret, le 1er janvier 2025 est entré en vigueur un nouveau programme scolaire en Syrie, donc, et qui a jeté des instituteurs et triste dans la rue et qui fait polémique.
Oui, la raison officielle en fait de ce changement, c'était de mettre fin à la propagande du régime de Bachar al-Assad. Et donc, dans toutes les leçons qui vont de la primaire jusqu'à la terminale, les symboles et les images qui glorifient l'ancien régime ont disparu, ainsi que toutes les références au nationalisme. Le drapeau syrien a lui été remplacé par celui de la révolution syrienne. Et sauf que le ministère de l'Éducation ne s'est pas arrêté là. La théorie de l'évolution a disparu des programmes scientifiques. Même traitement pour deux figures féminines historiques qui ont disparu, elles, des cours d'histoire. Plus subtil, le recours à un lexique religieux. On ne parle plus de défense de la nation, mais de défense de Dieu. La fraternité humaine est remplacée par la fraternité de foi. Et la matière éducation nationale par éducation religieuse. Alors évidemment, les réactions sur les raisons n'ont pas tardé. Face à un tollé et de nombreux appels à manifester, le gouvernement a été obligé de rétro-pédaler dès le lendemain via le compte Facebook du ministère de l'Éducation en précisant que les programmes scolaires sont toujours en vigueur jusqu'à ce qu'un comité d'experts spécialisés soit formé pour les examiner. Alors Pierre Aski, est-ce que ce ne sont quand même pas les prémices d'une islamisation de l'éducation ?
Je pense que c'est surtout le signe qu'il y a plusieurs tendances dans cette configuration, ce qui est logique parce que ce ne sont pas des gens qui étaient en train de se préparer à l'exercice du pouvoir, ils étaient en train de se battre, ils administraient une petite partie.
Comment l'administrait-il d'ailleurs cette région d'Idlib ?
De manière autoritaire.
De manière plus qu'autoritaire.
C'est clair, mais une fois de plus, on a affaire à un parti qui était, il y a quelques années seulement, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc il a fait du chemin puisqu'il a renoncé au djihadisme, mais il reste avec un terreau idéologique qui est celui-là. La question qui se pose à nous, parce que la question c'est celle de qu'est-ce qu'on fait face à ce régime ? Est-ce qu'on les laisse à huis clos et à régler leurs problèmes entre eux, ce qui va terminer par effectivement la mainmise des plus durs sur le régime ? Ou est-ce qu'on accompagne tant que l'irréparable n'est pas commis cette tentative de stabilisation d'un pays ? Il faut quand même se souvenir de l'ensemble des défis auxquels fait face la Syrie, parce qu'on parle de programmes scolaires, mais le week-end dernier, il y a eu 100 morts dans le nord du pays entre les Kurdes et les milices pro-turques. Il y a des problèmes avec des alaouites de l'ancienne armée qui continuent à résister dans certains coins. Les Israéliens ont pris une partie du Golan. Enfin bref, vous avez quand même une situation globale qui est explosive.
Et Myriam Benred, pour vous, c'est dangereux de s'attaquer à ces programmes spécifiquement d'éducation aujourd'hui ?
Pour moi, encore une fois, ça vient avant ce qui devrait être fait, c'est-à-dire la mise en route d'un processus de constitution, donc déjà des élections pour avoir une assemblée constituante, un comité de rédaction d'une nouvelle constitution qui, par ailleurs, devrait être formé via de larges consultations parmi les différentes communautés syriennes. Ça n'a pas été fait. Et tout de même, je suis désolée
de
dire...
Ils sont arrivés il y a un mois.
Le problème, c'est que, vous savez, quand on a déjà réformé des programmes scolaires qui, comme vous l'avez dit très justement, remplacent le mot « nation » par « Dieu », qui tout de même qui porte un vocabulaire qui n'est pas neutre, tout cela encore une fois avant même dans la Constitution de déterminer un certain nombre de principes qui sont directeurs quant à l'avenir de la Syrie, de ce qu'on appelle la Syrie, eh bien je ne pense pas qu'on va rétro-pédaler, et c'est bien pour ça que je vous disais qu'il y avait le risque à l'horizon de 4 ans que s'installe en fait une gouvernance de facto avec des hommes qui vont imposer finalement ce qu'ils entendent faire de la Syrie. Et puis peut-être aussi un dernier point, des élections signifieraient qu'ils acceptent une alternance, par exemple, qu'ils acceptent de perdre le pouvoir au profit d'autres partis. D'ici 4 ans, on a largement le temps quand même de voir s'installer un régime qui ne laissera pas justement la possibilité aux Syriens de se défaire voilà, de ces programmes scolaires comme vous venez de les présenter.
Alors, vous avez évoqué tous les deux l'analogie qu'on fait avec l'Afghanistan et les talibans. On va regarder une archive. Il y a 3 ans et demi, prise du pouvoir, retour des talibans en Afghanistan. Et à ce moment-là, ils donnaient des gages et tentaient de rassurer la communauté internationale par rapport notamment aux droits des femmes. On a vu ce qui s'est passé.
Scène à peine croyable. Une femme journaliste à la télévision afghane interview un responsable taliban. Quelques heures plus tard, les mêmes talibans organisent une conférence de presse devant les caméras du monde entier. À chaque fois, le même message, tenter de rassurer.
Avec la volonté de Dieu et en accord avec les principes de la charia, nous autoriserons les femmes à travailler. Les femmes sont un élément important de notre société, nous les respectons.
Dans la grande ville d'Herat, cette école pour filles a pu rouvrir. Toutes doivent porter le voile. Mais beaucoup craignent que la réalité dans les prochaines semaines soit tout autre.
Maya Kadra, on sait ce qui est advenu. Elles sont aujourd'hui cloîtrées. Elles sont invisibilisées, ces femmes en Afghanistan. Est-ce qu'un islamiste peut vraiment se modérer? Est-ce qu'on peut aller vers un modèle turc en Syrie?
Ce n'est pas exclu. Et en fait, la société syrienne, elle est différente de la société en Afghanistan. C'est un pays de commerce, c'est l'ancienne route de la soie. Alep, Damas, le littoral syrien au nord, entre Latakia, Kordaha et d'autres villes aussi, sont des villes cosmopolite presque. Il y a eu la coupure de la guerre, mais en fait, c'est un pays vivant où le conservatisme côtoie le libéralisme aussi. Donc, je trouve que, déjà, il y a une certaine forme de résistance dans la société syrienne même.
Mais elle est forte, cette société civile aujourd'hui, vous la sentez forte, vivace, parce qu'en même temps, l'opposition à un exil n'a pas été conviée au dialogue national qui est prévu ce mois-ci, Pierre Aski.
Oui, effectivement. Mais là, on rentre dans les méandres de 10 à 12 ans de chaos à la fois politique, militaire, social, de destruction de cette société, à la fois en interne et avec la dispersion à l'extérieur de millions de personnes. Donc, effectivement, on est aujourd'hui dans une situation catastrophique, aussi sur le plan politique, parce qu'il n'y a aucune unité. On a des forces. Vous savez, il y a une polémique en ce moment en Syrie, c'est que les premiers à être entrés dans Damas, ce n'est pas le parti d'Al-Sharr, c'est les gens du Sud qui sont arrivés les premiers dans Damas et qui réclament aujourd'hui leur place, une place
autour
plus grande autour de la table. Voilà, c'est le genre de sujet que les transitions poussent. Et rien n'est figé, à mon avis, au bout d'un mois. Et sur le plan international, vous parliez de la Turquie, il faut savoir que qui aujourd'hui, parce que les Occidentaux, on peut dire on vient ou on ne vient pas. Vous savez, il n'y a pas d'électricité en ce moment en Syrie, il y a très peu d'électricité. Il y a 2 bateaux avec des générateurs qui vont être installés sur les côtes syriennes et qui vont produire, doubler la capacité électrique. Ils viennent de Turquie et du Qatar. Et ils viennent parce que les Américains ont levé une partie
des sanctions. Alors Myriam Benram, est-ce qu'on peut laisser la place à ces pays-là? Est-ce qu'on ne doit pas, nous aussi, occidentaux, essayer de participer à cette reconstruction plutôt qu'être dans de la défiance au profit du Qatar, de la Turquie ou même de la Russie qui continue à avoir des intérêts importants sur place et qui veut les maintenir?
Je pense qu'on aura une diversité dans tous les cas d'investisseurs parce que là, on parle vraiment de centaines de milliards de dollars de reconstruction. Ce n'est pas un petit plan, c'est l'équivalent d'un plan Marshall, en fait. Enfin, j'exagère un peu, mais on est sur des très, très grosses sommes, des très, très gros montants. Maintenant, du côté occidental, au niveau des grands bailleurs de fonds, qu'on soit bien clair, il faut quand même qu'on impose une forme de conditionnalité à la Syrie, c'est-à-dire qu'on participe à cet effort de reconstruction, mais typiquement sur la question du droit des femmes, du respect des droits fondamentaux, etc., qu'on affirme quand même un certain nombre de valeurs. Parce que les Afghans, vous parliez de l'Afghanistan, ont payé le prix justement de cette absence de conditionnalité. On voit ce que ça a donné. Après, à nous avoir dit que finalement, on pourrait un peu manœuvrer avec les talibans sur la question de la reconstruction, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc j'espère que la Syrie ne va pas... Alors ça ne sera pas l'Afghanistan, mais c'est vrai qu'il y a quand même, encore une fois, une zone d'insécurité.
Mais Maya Kadra, vous considérez que le nouvel homme fort, donc Ahmed al-Sharr, ex-al-Joulani, est suffisamment intelligent, pragmatique, voire cynique, selon certains, pour que, afin de durer, il adoucisse un tout petit peu sa vision?
Voilà, il adoucit et puis il est reconnu presque adoubé par les pays arabes. Aujourd'hui, il a reçu le représentant du Bahreïn. Son ministre des Affaires étrangères a fait toute une tournée.
On le voit à l'écran, le changement en 10 ans.
Voilà. Toute une tournée dans les pays arabes. Ils ont accueilli le ministre des Affaires étrangères français, la ministre allemande, Pedersen, qui était le premier, qui c'était l'envoyé de l'ONU. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas, il est intelligent, il ne l'est pas... Mais en tout cas, il s'est imposé. Et pour le moment, en suivant toutes ces déclarations, notamment celles qui sont accordées aux télévisions arabes, en langue arabe, je trouve qu'il a un discours modéré. Modéré, rassurant pour les communautés chrétiennes, druzes, etc. C'est très poli, c'est même trop beau pour être vrai. Après, concrètement, est-ce qu'il y a vraiment eu des preuves concrètes du changement ou bien de l'évolution de M. Al-Shara? Pour moi, il n'y a pas encore de preuves tangibles. Il a promis un dialogue national. On ne connaît pas encore.
Les preuves tangibles, justement.
Ben, les preuves tangibles, c'est l'organisation du dialogue national, parce que c'est le dialogue national qui conditionne...
Et le respect des communautés, des minorités ethniques, religieuses...
Alors, il n'y a pas eu de violence signalée jusque-là, mais... Dans le processus politique jusqu'à aujourd'hui, on a une invisibilisation des autres acteurs, des druzes, des chrétiens. Et ce dialogue national, il se fait attendre. Sachant que c'est une urgence pour réécrire la Constitution.
En même temps, Pierre Aski, si on met trop de conditionnalité, comme le disait Myriam Benrad, est-ce qu'on ne risque pas de faire le jeu des franges plus radicales? Parce qu'il y en a toujours aux côtés... de Joulani.
Je pense qu'effectivement, c'est un équilibre à trouver. Moi, je suis d'accord avec l'idée de la conditionnalité. C'est évident que les Occidentaux ne doivent pas déverser des centaines de milliards nécessaires pour la reconstruction du pays sans avoir des garanties sur le fait que ça ne deviendra pas un Afghanistan, ce que je ne crois pas.
Et Pierre Aski, si demain la charia entrait dans la Constitution, est-ce que ça serait la ligne rouge infranchissable? Et donc, dans la notion de conditionnalité, les Occidentaux pourraient évidemment retirer toutes leurs billes.
Mais je pense qu'il y a des lignes rouges à tracer. La question des femmes en est une, et elle est évidente sur les droits des femmes. Je pense que c'est un des critères, le respect des minorités. On dit souvent qu'on juge un régime à la façon dont il traite ses minorités.
30% de minorités.
Oui, c'est une mosaïque, la Syrie. C'est un pays de différentes communautés qui doivent être respectées et qui aujourd'hui sont dans une insécurité, même si effectivement il n'y a pas eu de violence au moment de la prise du pouvoir.
Oui, vous vouliez conclure, vous vouliez rajouter
quelque
chose sur...
Quand même une chose, parce qu'il y a eu, quand vous parliez d'invisibilisation, on a aussi invisibilisé un certain nombre de violences, quand même, dans le contexte de la couverture médiatique qui a été faite de cette libération. Et puis surtout, je pense que beaucoup de minorités, justement, aujourd'hui, se retiennent peut-être aussi de dire ce qu'elles pensent véritablement.
Par peur ?
Bah, bien sûr, oui, par peur de représailles. Donc attention à ne pas idéaliser, encore une fois, cette période très sensible.
Merci. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.